C'est pour mettre en évidence le chidouche, entre guillemets. Torah tziva l'anou Moshe. Le chidouche que mène Moïse donnant la Torah, c'est tziva. La Torah que Moïse nous a donnée comme commandement, mais elle était là comme modalité d'être. Est-ce que vous avez entendu le chidouche de traduction, Ken? Torah tziva l'anou. Mettez l'accent sur tziva. À partir de Moïse, c'est tzav, mitzvah, tzivouille. Vous voyez que le même verset, avant cette étude, et à partir de cette étude, avait un sens différent. Okay? La Torah que Moïse nous a ordonnée, et on ne prêtait pas attention à ce fait que, avant Moïse, elle était vécue, mais pas sous forme de accomplissement d'ordre. Ça y est, c'est clair? Mida, mitzvah. Après, dans la fin du verset, il y a un sujet d'étude très important. Mon rachat qui l'a dit à Jacob, et l'héritage de l'assemblée de Jacob. Pourquoi Jacob en particulier, et pas Abraham et Isaac? Si nous avons entendu tout à l'heure, retenez ça comme question. Il y a aussi une raison importante pour ça. Ça va jusque-là? Donc, je reviens donc à Rashi. La Torah n'aurait dû débuter, commencer par ce verset. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, que par ce verset, Shehi mitzvah rishona shenitzavu ba Israël, qui est la première mitzvah dont Israël a été ordonné. Je continue Rashi. Uma taham patach bebereshit. Et pourquoi il ouvre patach, liftoach, par au commencement Dieu créa le ciel et la terre. En français, on ne peut pas percevoir ce que je vais dire maintenant. C'est que Rashi a changé de mot dans les deux parties de sa question. Il n'était nécessaire de commencer, je reprends vos termes, les atril. Et pour quelle raison il a commencé, patar. Est-ce que c'est clair? Formellement, la question. Okay. Alors j'explique. En fait, suivez bien le raisonnement, je vais beaucoup vous le simplifier. Okay. En fait, la Torah, en tant que livre des commandements, commence à ce verset 2 du chapitre 12, puisqu'avant, ce n'est pas des commandements. Que Atrala, en tant que Atrala, la Torah commence bien à ce verset de Achodesh Azelachem. C'est clair jusque-là? Et par conséquent, la question de Rashi porte ailleurs que ce qu'on pouvait croire en lisant le texte en français. Et il demande pourquoi la préface à ce livre qui commence au verset 2 du chapitre 12 est dans Bereshit. Et c'est ça que nous allons étudier. Alors, je vais reprendre la question en ajoutant un terme de vocabulaire. La différence entre le verbe léatril, faire débuter, et liftoach, donner une préface. En hébreu, vous avez un terme précis, petiha, qui signifie aussi une préface. Ça veut dire une ouverture et ça veut dire une préface. Alors vous voyez que la question de Rashi est tout autre de ce qu'on aurait pu penser. Okay? Il ne se pose pas la question de savoir pourquoi il y a une préface à la Torah, et elle est longue, tout le livre de Bereshit et les 12 premiers chapitres de l'Exode. Il se pose la question de savoir pourquoi cette préface commence à Bereshit. Vous voyez que j'ai modifié la question. Est-ce que c'est bien clair? Oh. Il faut d'abord mettre en évidence que la Torah, en tant que livre des commandements, et qui commence effectivement au premier commandement donné à Israël, c'est-à-dire à Chodesh Azelachem, comment j'ai commencé la phrase devait avoir une préface. Et je vais vous dire comment. En vous lisant le premier verset du chapitre 12 de l'Exode, que vous n'avez pas sous les yeux. Là, voilà. Alors, vous revérifierez dans vos livres. Le premier verset du chapitre 12 dit ceci. Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu dit à Moïse, Ve'el Aaron et à Aaron, Ve'eret Mitzrayim, dans le pays d'Égypte, les morts en disant, verset 2, Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Ce mois-ci sera pour vous, j'ajoute à partir de maintenant, le premier des mois, et pas le mois de Tishri. Alors essayez de dire par vous-même, d'après ce premier verset que je viens de lire, que je vais relire, pourquoi il était nécessaire que le livre des lois ait une préface. Je relis le verset. Vayomer Hachem el Moshe, et Dieu dit à Moïse, Veyel Aaron et Aaron, Veyeret Mitzrayim dans le pays d'Égypte, les morts en disant. Pourquoi il était nécessaire qu'il y ait une préface au livre qui commence à Chodesh Hazelachem? C'est clair jusque-là? Oui. Raisonnez. Et qui ils sont? Exactement. Alors, on voit tout de suite qu'étant donné cette Torah, comme dit Rashi, ordonnée à Israël, il faut savoir qui est Israël. Mais de façon plus stricte, comme vous avez dit, dès qu'on commence à lire le premier des commandements, alors une question apparaît, et qui est Moïse, et qui est Aaron, qu'est-ce qu'ils faisaient en Égypte, et qui est Dieu, ce Dieu qui se révèle à eux pour Israël. Donc nous avons besoin d'une petite historique pour élucider les personnages. Je vais surtout mettre en évidence la question centrale, qui est Israël qui reçoit cette Torah. Oui, c'est déjà dans Rashi, chez Nistavu, Israël. Alors je reprends Rashi maintenant en hébreu et en français. Lo haya tzarich le'atril et ha Torah. C'est bien et ha Torah dans Rashi? Oui. Lo haya tzarich le'atril et ha Torah. Ela me'achodesh haze lachem. Shehi mitzvah rishona shenitzavu ba Israël. Umataham patach. Et pour quelle raison il a commencé sa préface? Pour expliquer qu'il est Israël, à Bereshit, et pas au commencement du récit de l'histoire. Ça veut dire que j'ai restreint l'objet de la question de Rashi sur le premier chapitre de Bereshit, seulement le récit de la création, qui semble être en plus que le récit historique nécessaire. C'est clair jusque-là? Bon, pour deux raisons. C'est que ce récit de la création est hermétique, et on a d'autre part un enseignement de la Mishnah, c'est dans la Massachet Hagiga, qui interdit de l'étudier en public. Ça devrait faire partie de la tradition cachée, parce qu'il est incompréhensible. Et on va parler des mystères de la création. On va rentrer dans, par le trou de la serrure, on va voir Dieu créer le monde. Il n'y a que les qui ont le droit, qui ont le droit. Mais ce que je veux dire, donc c'est un tout autre problème qui s'est posé à Rashi. Qu'est-ce que ce récit vient faire là-dedans? Ça y est, c'est clair. Et j'entends une fois M. Levinas dire qu'il y a un effet littéraire considérable. Pour une fois qu'un livre commence au commencement, Rashi, c'est bien juif, et pourquoi ça commence au commencement? C'est énorme. Bon, on aura aussi d'autres dimensions de la question. Voilà, c'était un peu schématisé, mais j'espère suffisamment clair. A été l'objet de la question de Rashi porte sur le commencement de la Petiha, sur le commencement de la préface. Okay. Vous y êtes? Bon, je vais faire deux minutes de Afsaka et j'enchaîne. Est-ce que entre temps quelqu'un sera assez aimable pour m'apporter un verre de thé ou d'eau, tout simplement? Je reviens. Et ça se relie, c'est pas la même. Ça se relie. Okay.
L'hébreu. D'avant Sinaï, et cette expression qui me rappelait l'expression de religion naturelle m'a frappé dans la mesure où c'est justement naturel et non pas surnaturel. Alors je demandais la part de la révélation du dialogue avec Dieu des patriarches dans cette manière d'être dite naturelle.
Alors attendez, nombre de vocabulaire, ça m'aide à vous répondre rapidement. Cette manière naturelle pour l'être hébreu est surnaturelle en dehors de l'être hébreu. Oui. Voilà, c'est cela, si j'ai bien compris. C'est relié au verset concernant Jacob. Pourquoi le verset dit l'héritage de l'assemblée de Jacob? Voilà, je ne sais encore pas où j'ai mis. La formulation de Rashi en hébreu. C'est bizarre. Quelqu'un aurait des allumettes? Il est nécessaire, les atriles, de faire débuter et la Torah, est là, si ce n'est, mais à Chodesh Hazelachem, par le verset, Exode chapitre 12, verset 2, ce mois-ci sera pour vous. Shehi mitzvah reshona, qui est la première mitzvah, shenistavu, Israël, dont Israël a été ordonné. Umataam patach babereshit, babereshit bara. Dans une des sources de Rashi, c'est Bebereshit Bara, parce que la réponse de Rashi porte sur Bara. Au commencement, Dieu créa. C'est lui qui l'a créé, vous rappelez du raisonnement. Okay? Dans le texte que vous avez, il n'y a pas Bara, mais c'est un problème de réduction fine, peu importe. Quoique dans le mot de Bereshit, il y a le mot de Bara. Parce que s'il y a un commencement et que c'est sérieux, c'est qu'il s'agit d'une création. C'est clair ? Et on le voit même d'ailleurs à la lettre, les trois premières lettres du mot Bereshit, c'est le mot Bara. Enfin, c'est le Lashon HaKodesh. Alors ce que nous avons appris, c'est qu'en fait, en tant que livre des commencements, en tant que livre des lois, la Torah commence dans le sens du verbe Léatril à ce verset. Mais elle a une pticha, elle a une préface nécessaire, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors Rashi se demande, et pourquoi cette préface commence par Bereshit Bara? Ça va jusque-là? Donc on a restreint, entendez bien cela assez attentivement, on a restreint la portée, l'objet de la question de Rashi, au premier chapitre seulement. Donc il y a une première difficulté de raisonnement qui a été résolue. C'est clair? Alors nous allons demander comment et serait le commencement de la Torah, de la pticha normale, nécessaire et normale, historique, à cette Torah. Eh bien, vous allez prendre le verset 4 du chapitre 2 dans Bereshit.
Tout à l'heure, donc, quand vous disiez, dans la première façon de comprendre la question, on comprenait quelle était la raison pour laquelle on aurait pu ne pas commencer par Bereshit. C'était parce qu'on voulait commencer par la première mitzvah.
Une minute que je précise, normalement, si nous définissons la Torah comme le livre des commandements, elle commence au premier coup.
Mais alors là, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on pose la question au sujet de Bereshit pour la première fois? Tout à l'heure, c'était masculin. On voulait faire commencer.
Écoutez, à partir du moment où on a lu ce que ça veut dire exactement, la fausse manière de lire, elle éclate, elle s'est évanouie, il n'y a plus de problème. Okay? C'est clair ce que je dis. Vous mettez vous-même en évidence son incohérence, en partie. Et en général, classiquement, la difficulté qu'on y voyait, c'est une apparente illogique de Rachid, ne saurait pas raisonner. Il pose une question sur un livre et 12 chapitres et il répond sur un mot du premier verset. Vous avez compris ce que je dis ? Et tout le reste, comment en faire ? Et c'est pourquoi nous le verrons après, vous me reposez cette question après, les commentateurs de Rashi se sont ingéniés à mettre en évidence dans la réponse de Rashi une explication qui irait pour tout le texte jusqu'à Achodesh Hazeh. Mais l'explication que je suis en train d'étudier maintenant restreint la question de Rashi sur le premier chapitre. On l'ajoutera après avec les autres commentateurs et que c'est valable aussi pour tout le reste du texte. Mais l'intention de Rashi n'était pas sur tout le texte. On le voit dans l'intention même des sources que cite Rashi. Ce que je vous ai donné comme clé, si j'ose dire, c'est un mot pas beau, c'est la différence de mots que Rashi met entre Léatril et Patah. Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris? C'est bien clair pour vous? Et alors... la manière que nous allons de réaborder cette formule de Rashi a pour objet l'étude suivante. Alors d'accord qu'il y a une pticha, une préface historique nécessaire à la Torah comme commandement, mais jusque-là le mot de Torah ne signifie que les mots que le livre des commandements. Mais nous allons voir dans Rashi avec la Gemara que le mot de Torah implique pas seulement les commandements, mais les récits historiques. Je veux dire que les récits historiques sont Torah, et pas seulement les commandements. Dans la formule de une minute. Écoutez, si vous avez une question à poser, laissez-moi finir le raisonnement, parce que je risque d'oublier entre-temps de quoi il s'agit. Alors, je vous vois poser le doigt, ça suffit. Une question de mémoire. Voilà ce que je voulais dire, c'est que nous sommes habitués jusqu'à présent à ce que le mot de Torah dans Rashi n'aurait comme sens que les commandements, pour la cohérence même de sa question. Il n'y aurait pas eu de question si Torah, ça ne voulait pas dire livre des commandements. C'est clair ? Alors, ce que nous allons mettre en évidence, que dans la formule de Rashi stricte, Torah, puisqu'il va donner une réponse, ça implique que les récits historiques, c'est Torah. Et comment ça se rattache à notre question générale ? L'importance des récits historiques révélant l'identité d'Israël du dedans de l'universel humain. C'est Torah. Et ce n'est pas simplement de l'histoire. Quelle importance qu'aurait l'histoire comme préface ? Est-ce que nous avons... Vous suivez la progression dans la définition, Ken ? Et nous allons le voir dans la Gemara. Parce que, je refais le raisonnement. Si Rashi, dans sa question, implique qu'il était normal que la Torah ne commence par la première des mitzvot, et c'est comme ça qu'en tant que livre des mitzvot, elle commence, Ken, et que sa question n'était que pourquoi la préface débute à Bereshit et pas au verset que nous allons voir, qui est le commencement de l'histoire, ça implique que dans sa réponse, il va légitimiser le fait que tout le texte de la Torah, c'est Torah. Et donc, nous devons aborder un sens du mot Torah qui dépasse uniquement le vocable, la catégorie commandement. De cette sorte de restituer que l'enseignement de la Torah concernant l'histoire a force de loi. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Okay. Et nous allons le voir, et nous le voyons déjà en familiarité de langage, dans Rashi. L'oyatsarich l'asri l'état Torah. Ou Mataham Patar. Et par conséquent, tout ça, c'est Torah. Okay. Est-ce que c'est clair ? Okay. Bon. Et une minute. Et voilà, je risque d'oublier. Et nous allons le voir, bon, pas uniquement dans la formulation de Rashi, mais dans une source de la Gemara, que nous allons étudier dans la deuxième partie du cours plus attentivement sur texte. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Dans le mot Bara même, dans la signe de Maitreya, ça fait 5. Quel ? 200, 5, 0 et 1. C'est 5. C'est
sûrement pas par hasard, mais ça ne fait pas partie de notre sujet. C'est une analogie. Okay. D'ailleurs, vous voulez dire qu'il y a une indication dans la structure même du phrasé, si j'ose dire, que la Torah aura 5 livres. Bon, seulement, ça vous sera une illustration, je disais tout à l'heure. Nous avons une Gemara dans le Père Kolkid Vakodesh, la Gemara de Shabbat, qui dit qu'il y a une autre opinion selon laquelle la Torah a 7 livres. Et pas que 5. Vous voyez pourquoi il faut se méfier. Mais je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si j'ai cité hier soir ou je sais pas si c'est dans un autre cours que je voulais le citer. Il y a dans l'enseignement des autorismes chrétiens une allusion par ce terme de bara à la Trinité. Ah oui, en quoi on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quoi. C'était un exemple de Megale Panim Batora Shloka Alacha, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Le Bet de Bara, c'est le Ben, le Fils. Le Rej, c'est le Rouar. Et le Alef, c'est le Père Abba. Vous voyez la Trinité dans Bara ? Alors, vous voyez qu'il faut se méfier des lectures présupposées. Est-ce que c'est clair ? Bon. On n'a aucune idée à quel point, à travers les siècles et les millénaires, on nous a torturé ce texte. C'est plus que dangereux. Alors, je voulais citer pour vous rassurer, on connaît. Donc, alors, je le bien. Et le verset 4 du chapitre 2 dit ceci, suivez avec moi. « Ele tondo tashamaim va'aretz be'i bareham, be'yom » Asot Hashem Elokim Erez Veshamaim, Mekol Siyah Hasadeh Vechule Vechule, je traduis. Et voici l'histoire, les engendrements des cieux et de la terre en leur création, au jour où Hashem Elokim eut fait Erez Veshamaim, terre et cieux. D'abord les cieux et la terre, les cieux d'abord, les cieux avant, ensuite à la fin du verset, la terre avant, tout ça est plein d'études. Et toute la végétation du champ, et il n'y avait pas d'homme, et Dieu fit l'homme, alors ça commence là avec l'homme. Et l'homme a eu des descendances, et dans cette descendance apparaît Moïse, Aaron, l'Égypte. Oui. Et donc, c'est clair, cette petit ha aurait dû commencer là, et non pas à Bereshit. C'est clair ? Alors, dans ce verset 4, du chapitre 2 était le commencement normal de la Peticha obligatoire, pourquoi elle commence à Bereshit. C'est clair? Ça veut dire que l'objet, la portée, la question de Rashi portait sur le Mahasé Bereshit, le récit de l'œuvre du commencement, qu'en français on dit à tort, le récit de la création. C'est le récit des six jours plus le septième. Pourquoi c'est le verset 4, petite parenthèse, pourquoi c'est le verset 4 du chapitre 2 et pas le verset 1 du chapitre 2, et le premier chapitre étant le Bereshit et après l'histoire? Parce que nous avons la pagination chrétienne. Et en chapitre, c'est la pagination chrétienne. Les paragraphes de la tradition juive sont tout à fait autres. Dans les paragraphes de la tradition juive, ces quatre versets du deuxième chapitre font partie du premier chapitre. Est-ce que c'est clair? Il y a des raisons théologiques pour lesquelles la lecture chrétienne fait commencer le deuxième chapitre aux trois versets du Shabbat, alors que la tradition juive inclut les trois versets du Shabbat dans le récit du commencement. Bon, c'est un autre sujet. Hein, je vous l'indique en passant. C'est clair? Mais vous le retiendrez d'ailleurs pour tout à l'heure. Alors, vous mettrez en évidence un mot important de ce verset, le mot de Toldot, qui va nous occuper en filigrane dans les autres cours de la semaine. Ça veut dire que c'est le mot par lequel le vocabulaire biblique désigne l'histoire. Ceux qui ont fait l'hébreu savent que pour dire l'histoire, on dit les Toldot, Toldot Am Israël, Toldot Am Yavan, vous voulez. Mais strictement, étymologiquement, il signifie les engendrements. Donc, première chose, ça veut dire qu'il y a une peticha, préface, nécessaire à la première mitzvah pour savoir qui est Moïse, qui est Aaron, qu'est-ce qu'ils font en Égypte, qui est ce Dieu qui se révèle à Israël. Tout ça nous est raconté à partir de ce verset et ça s'appelle Toldot. Donc, notre question, c'est d'arriver à mettre en évidence que le récit des Toldot fait partie de la Torah comme Torah. Vous avez compris? Deuxième indication, en passant, à ce moment-là, on aurait résolu une énorme question dans les textes traditionnels. Laquelle? C'est qu'on se demande pourquoi la Torah commence par un bet au lieu de commencer par un aleph. Vous connaissez cette question? Or, si elle commençait par ce verset, elle commençait par un aleph. Et on aurait fait l'économie de tonnes de livres de bibliothèque. Donc, ça se relie, Ken? C'est un autre sujet, mais ça se relie. Vous voyez, tout ce qu'il y a dans la question que se sont posés les maîtres de Rashi, que Rashi cite sans les citer. Okay? Vous avez compris? Donc. Alors, avant d'aller plus loin, je vais reprendre cette question préalable. Nous allons avoir une réflexion assez rapide, qu'on peut mettre à part d'ailleurs. Mais il y a un mot qui est très difficile dans Rashi. C'est « il n'était nécessaire de commencer ». Vous voyez, cette question est esquivée dans notre traduction. Si je me souviens de votre traduction, la Torah aurait dû débuter. Alors cette question de nécessité de débuter que par ce verset est complètement évacuée. Or, c'est dès le début de la lecture de Rashi qu'on commence par s'occuper de cela. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit nécessaire de débuter la Torah? Alors il faut qu'il y ait une raison pour que la Torah débute quelque part. Il faut qu'il y ait une nécessité pour commencer. Vous comprenez la difficulté de logique? Il faut une nécessité pour commencer un livre par son commencement. Est-ce que c'est clair? Vous voyez à quel niveau est l'étude traditionnelle elle-même et à quel point on est complètement en surface lorsqu'on ne pénètre pas dans les sources même des textes traditionnels. Alors, je vous donnerai une réponse un peu schématisée. Okay. En citant une des sources, disons, une des manières de formuler, ça s'appelle en hébreu une girsa. Qui est un mot qui vient de l'araméen. Vous connaissez ce mot? La girsa. La recension, la leçon de... Je ne sais pas comment on dit les littéraires, la version. Une version. Non, non, non. Girsa, c'est la manière de formuler le même enseignement. Le même contenu d'enseignement peut avoir telle girsa ou telle girsa, telle formulation ou telle formulation. Se trouve dans le Zohar, dans la paracha de Bo, qui traite du 12e chapitre de l'Exode, et le Zohar donne cette source en araméen, mais en araméen, le Zohar dit « Amarabi Yitzhak, lo la itztarich oraita le mirtav ». Ça veut dire « Il n'était nécessaire d'écrire la Torah que par Achodesh Hazé ». Vous voyez, Rashi nous a donné une source du Midrash Tanhuma Yashan, c'est un Midrash bien précis, certains disent du Yalkut Shimandim, mais c'est un problème d'érudition. qu'il était nécessaire les atriles de faire débuter. Alors que le Zohar nous dit qu'il était nécessaire d'écrire la Torah que par ce verset. On va réfléchir à la différence et ce que ça nous enseigne pour notre question sur la nécessité de. C'est que s'il y a une nécessité de commencer ce livre quelque part, c'est parce qu'on l'a mis par écrit. La nécessité qui fait que on a choisi un commencement quelque part, c'est parce qu'il était nécessaire de le mettre par écrit. Donc il y a une nécessité préalable. La nécessité de mettre cette parole par écrit entraîne la nécessité de commencer quelque part. Autrement, la Torah n'a ni commencement ni fin. Vous voyez ce qui se dévoile là? Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, nous allons réfléchir à la différence entre ces deux expressions, Torah et Sefer Torah. C'est clair? Dans la Torah, il n'y a pas de commencement. Dans Sefer Torah, il y a un commencement. Alors, la nécessité de fixer le commencement quelque part vient de la nécessité de mettre la Torah dans un Sefer, de mettre la Torah par écrit. Vous suivez? Donc. Alors ça, c'est très important. C'est qu'en principe, la Torah ne devrait pas être écrite. La Torah, c'est une parole. C'est clair? C'est-à-dire, d'une certaine manière, et c'est plus que d'une certaine manière, mettez ça au pluriel, d'une certaine manière, la Torah, c'est la Torah chez Béalpé. Vaïdaber Hachem el Moshe. Vaïomer Hachem el Moshe. Kialpi hadvarim haele karati berititrem. Et parce qu'il y a eu des nécessités que je vais essayer de mettre en évidence, on l'a mise par écrit. Et vous voyez à quel point le monde de l'étude traditionnelle est autre que le monde universitaire. Le monde universitaire a un livre, une capacité de raisonner des dictionnaires, et on commente. On appelle ça l'exégèse. Vous avez compris ce que je veux dire? Okay. Alors que pour le monde traditionnel, il y a une parole. Et pour les raisons de nécessité historique que je vais énumérer, il a fallu qu'on la mette par écrit. Mais ce n'est pas le livre qui est premier, c'est la parole, et donc celui qui parle, c'est-à-dire le maître. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je parle souvent de cela, mais moins de façon moins accusée qu'aujourd'hui, mais pour rendre les choses bien plus claires. Il y a dans Baba Kama un raisonnement de savoir, vous savez, ce principe de Malkout, la peine de la bastonnade, enfin, aucun rapport, hein, je n'ai pas fait exprès. Donc, que la Torah chez Birtav, la Torah écrite, prévoit Arba'im Yakenu, 40 coups de bâton. Le Talmud étudie 40, c'est combien? Et il dit on inflige de la bastonnade à celui qui est passible de la bastonnade que jusqu'au moment où il est capable de garder sa dignité. Si au deuxième coup il perd sa dignité, on arrête. Et je vous ouvre une parenthèse, il n'y a que deux peines dans la Torah, la peine de mort ou la bastonnade. Vous savez cela, il n'y a pas de prison dans la Torah. Donc. Et lorsqu'il y a diagnostic que c'est la volonté qui est atteinte, qui est irréversiblement en affaire à une perversion, c'est la peine de mort. Maintenant, si c'est une faute qui ne se définit pas au niveau de cette perversion de la volonté, on considère qu'il s'agit d'un malade et la seule sanction, c'est électrochoc. Les électrochocs, en ce temps-là, c'était la bastonnade. Et c'est clair, c'est un peu schématique, mais en fait. Et pour aider la bonne volonté à se retrouver. S'il y a des psychiatres parmi vous dans la salle, vous savez à quoi ça sert, les électrochocs, fût-ce par l'insuline, fût-ce par un traitement de canapé. Donc. Et alors, tiens, c'est pas mal ça, électrochoc sur canapé. La Gemara étudie cela en se basant sur le verset de ce contexte. Il dit « Et tu ne déshonoreras pas ton frère. » Alors le bastonné est appelé frère. Okay. Mais encore une fois, évacuez les allusions à ce que vous lisez dans Libération ou dans Le Point. Okay. Et alors, donc il y avait des experts au tribunal qui arrêtait le Malkout dès qu'il jugeait qu'il y avait perte de dignité. Et alors, les médecins qui se servent des électrochocs doivent connaître cette règle, je suppose. Bon. Et alors, dans cette discussion, le rabbin qui enseigne dit « J'ai reçu par tradition que dans tous les cas, c'est 39 et pas 40. » Et celui qui est capable d'aller de supporter 39, c'est 39, mais jamais plus, jamais 40. Arbaïm, ça veut dire 40 moins 1. Bon. Un autre rabbin dit, mais je le vois dans le verset, il fait un raisonnement, et il sort du verset que c'est 39 et pas 40. Alors le Gemara dit, malheur à celui qui préfère un Sefer Torah mort à un Sefer Torah vivant. C'est-à-dire, malheur à celui qui préfère un raisonnement exégétique à partir du verset écrit qu'à celui qui cite ce même contenu au nom de la tradition orale. Vous voyez jusqu'où ça va ? C'est dans le premier chapitre de Baba Kama. Vous voyez à quel point le monde de l'étude traditionnelle n'a rien à voir avec l'exégèse de type universitaire. Et d'ailleurs, à la limite, et c'est pourquoi les contenus, finalement, le résultat des contenus est différent, mais surtout l'atmosphère de piété de l'étude. Et à la limite, c'est la différence d'attitude entre les pharisiens et les sadducéens. Je ne reviens pas sur le sujet, mais certains d'entre vous y sont familiers. Bon, je voulais vous donner cet exemple et vous allez me rappeler de quoi on parlait. Ah oui, la différence, ça veut dire le fait que la Torah ait été mise en Sefer, c'est une chute. À un certain moment du récit, Dieu dit à Moïse, mais par écrit. Ktov lecha, écrit pour toi. Je ne peux pas résister à citer de nouveau quelque chose que j'ai dû sûrement citer dans notre séminaire. Je l'ai appris d'un de mes maîtres de philosophie. Pour Platon, l'écriture est un signe d'infantilisme dans l'histoire de l'humanité. Platon. Okay. Le fait de mettre par écrit, c'est le signe de la perte de la mémoire. Oui, mais c'est... J'y arrive. Et vous savez, il y a un mystère dans l'écriture des tables. Elles ont été écrites dans l'ordre miraculeux. Et Mishneh Ebrehim, c'est-à-dire on les lisait des deux côtés. Comment? Si vous prenez un côté, ben c'est de droite à gauche, mais derrière c'est de gauche à droite, comment on lisait quand même? Première difficulté. Et deuxième difficulté, vous avez la lettre même. Vous gravez la lettre même. Ça fait un trou, c'est plus un même. Et pourtant c'était un même. Comment ça tenait? Bon, le problème de l'écriture des tables, c'est un mystère. Okay. Et oui. Ma? Ça marche aussi. Je ne sais pas s'il y a un Samar dans les 10 commandements. Je ne crois pas qu'il y a un... Mais je ne sais pas, vous me posez une question, la mémoire. Je crois qu'il y a un Samar. Non, il y a un Samar dans la Torah, le premier Samar de la Torah, il y a une Gemara là-dessus. Dans les 10 commandements, on verra. Et puis les historiens ben, nous diraient après tout, est-ce que c'était en hébreu que c'était écrit? Est-ce que ce n'était pas écrit en écriture phénicienne? Vous voyez, toutes ces thèses qui paraissent là-dessus là. Donc, Ktav Ashuri, Ktav Ivri, vous avez dû apprendre ça dans les Ulpanim, je suppose. Bon, on est au courant, c'est pas grave. Et alors, là, il faut bien réfléchir à cela. Par définition, la Torah, c'est une vérité éternelle. Donc, il n'y a pas de question de avant et après dans la Torah, comme dit la Gemara. Mukdam ou Mukhar Batorah. Mais dans le Sefer Torah, il y a une nécessité de avant et après, et par quoi on commence. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon. Bon, ça c'est pour l'alphabet. Mais je veux dire qu'à partir du moment où vous avez une vérité, elle est vraie dans l'éternité, il n'y a pas un commencement de la vérité. Il n'y a un commencement que de l'exposition de la vérité. Lorsque la vérité se révèle, est exposée, alors il y a un ordre logique. Et l'ordre logique, normal, c'est l'ordre du commencement du dévoilement de la première mitzvah, tout simplement. C'est l'ordre historique qui est l'ordre normal du récit. Du texte, pas du récit. Je ne sais pas si ce point du raisonnement est suffisamment clair. Je répète, c'est la cohérence de l'affirmation de Rashi. Si déjà il y a une nécessité de commencer, il n'y avait de nécessité de commencer que par la première mitzvah dite à Israël. Pourquoi ? Prends un exemple. La vérité mathématique, en tant que vérité, il n'y a pas premier théorème, deuxième théorème, tout est vrai simultanément. Lorsque la mathématique est enseignée, il faut un ordre de révélation de la mathématique. Et par conséquent, l'ordre logique du texte, la Torah mise dans un Sefer, devrait débuter parallèlement à l'ordre chronologique de la révélation. C'est la cohérence de l'affirmation de Rashi. Qu'est-ce que vous avez dit? Absolument. Absolument. C'est-à-dire, l'ordre logique et l'ordre chronologique sont parallèles. S'il vous faut un commencement à cette mise par écrit de la vérité, le commencement logique, c'est le commencement chronologique. Expliquez-vous plus. Qu'est-ce que ça veut dire dans la loi orale?
Eh bien, il y a différentes parties de la loi. Il y a Abraham avant Isaac et Isaac avant Jacob. Donc, il y a une suite.
Mais c'est le cas. C'est le cas.
Donc,
absolument. Il y a, Descartes explique l'ordre des propositions pour la logique. Le problème de l'ordre des propositions est très important. L'ordre logique, c'est l'ordre chronologique. Je vous donne un exemple que j'utilise très souvent, même si je l'ai déjà dit, je le répète. Je vais le brancher sur une des indications tout à l'heure. L'ordre des patriarches, qui est l'ordre chronologique que nous connaissons, d'abord Abraham, après Isaac, après Jacob, c'est l'ordre logique absolu. Nous ne pouvions pas avoir une ancestralité différente, d'abord Isaac, après Jacob, après Abraham, ou d'abord Jacob, après... parce que c'est l'ordre des valeurs. Chacun de ces justes, les patriarches, sont les justes d'une valeur précise. Et il y a un ordre des valeurs. Il faut qu'Abraham apparaisse d'abord, ensuite Isaac, après Jacob. Si on change l'ordre, c'est plus Israël. Est-ce que ça se branche à votre question, Ken? D'après l'exemple que vous avez donné. Je crois que j'ai dit au dernier séminaire, d'ailleurs. Je vais le répéter. Ken? L'ordre s'appelle Heder. Hesed din Rahamim. Ken? Vous vous rappelez de cela? Si on change l'ordre, d'abord la charité, ensuite la rigueur, après la miséricorde, si on change l'ordre, apparaît un personnage inquiétant qui s'appelle le Hared. Vous avez entendu parler des Haredim, c'est les pierres pieuses de Jérusalem, pas les pierres arabes. Okay. C'est ça? Et les autres. Et c'est, comme j'ai cité, je ne sais pas où, je ne sais pas si c'était hier soir, lorsque les événements de décembre ont commencé, le premier Shabbat, il y avait deux sortes de pierres. Il y avait les pierres pieuses à Mea Shearim et il y avait les pierres noires à Salah al-Din. La police ne savait pas quelle pierre préférer. Okay. Alors c'est très impressionnant, quand on s'est rendu compte qu'il y avait des pierres de l'autre côté, les pierres pieuses se sont tues. Ça recommencera s'il y a la paix, les juifs. Et alors, comment? C'est Emet. Okay. Oui, et au niveau de la valeur morale, Emet, c'est la valeur de vérité. La valeur morale de la vérité, c'est Rahamim, la compassion. La vraie vérité, c'est la vérité compatissante. La vérité vivante, comme on a dit tout à l'heure. Toutes les valeurs se trouvent dans le côté positif de l'être et dans le côté négatif de l'être. Par exemple, la valeur d'amour, Chesed, dans le côté positif de l'être, c'est la charité. Dans le côté négatif, c'est la débauche. La débauche est un crime de charité, etc. Et un crime de vérité. Le point, le monde, le... Par exemple, j'ai lu, un des seuls articles que j'ai lu, c'est David contre David. C'est génial comme trouvaille journalistique, okay? David contre David. Il y a Baba HD, comme disent les Arabes. Okay? Donc, je reviens en français. Alors, c'est de l'arabe, c'est pas grave. Ça pourrait être du yiddish, mais c'est de l'arabe. Ça pourrait être de l'allemand, mais c'est de l'arabe. Donc, alors, je reviens au problème. On n'a pas le choix, c'est d'une Shoah à l'autre. Mais... Alors, je reviens au problème. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs? J'ai pensé au Netouré Cartan. Non, mais avant, ça c'était un exemple. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah, mais l'ordre de la Torah est simultané. La vérité éternelle est éternelle simultanément. Comme dit la phrase que je vous cite, « En mukdam umuchar batorah ». Mais « Besefer Torah, yesh mukdam umuchar », pour le dire. C'est pas pour rien que l'écriture de l'écriture a pris l'ordre qu'elle a pris. Il a une cohérence. Mais la question de Rashi, c'est que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre de avant et après, « mukdam umuchar ». Et par conséquent, il était nécessaire de commencer, parce qu'il y a une nécessité de commencer, que par la première des mitzvot donnée à Israël. Vous avez réintégré le raisonnement? Bon, quelle était cette nécessité? Alors c'est la règle générale, tant pour la Torah écrite, mise par écrit au temps de Moïse, par Moïse, tant pour la Torah orale, qui était le reste de la Torah, Torah restée orale, mais qu'on a dû mettre par écrit au temps de la Mishnah, et jusqu'à nous, les notes que vous prenez, okay, quelle était cette nécessité? D'abord la perte de mémoire. On a perdu la capacité de mémoire. Et puis, secondairement, la nécessité qu'il y ait l'uchot, les tables s'appellent l'uchot ha'edut, les tables du témoignage, qui est un témoignage commun de référence. Parce qu'avec le temps, un a dit, un va dire, voilà ce que j'ai entendu au Sinaï. L'autre va dire le contraire. Alors, il va falloir, rendez-vous là où sont les tables, on va voir ce qu'il y avait. Est-ce que c'est clair? Il faut un témoignage de référence. C'est pourquoi les tables de la loi sont appelées l'uchot ha'edut, la référence du témoignage commun. Dès que l'histoire commence, c'est l'histoire d'une dispersion. Il faut donc qu'il y ait un centre de référence. Il faut qu'il y ait un livre pour qu'on s'y réfère, mais qu'est-ce qui avait vraiment été dit? Et c'est cette phrase extraordinaire qu'il y a dans le Talmud. Ça ne me revient pas en grec, parce que c'est la même phrase dans la méthode de Socrate. De quoi s'agit-il? On est en pleine discussion, au bout de 2 heures, on ne sait plus de quoi on est parti. Alors, subitement, le maître pose la question, « Bemaï Askinan, ne vous envolez pas, après tout, de quoi il s'agit? De quoi on s'occupait? Bemaï Askinan. » Comment on disait en grec? Le tiomtos, moi je souviens. C'est ça, oui. Bon, ça me revient de ma mémoire grecque. Et alors, vous allez voir à quel point nous sommes tombés bas. Parce que bien que le texte écrit nous ait été donné comme témoignage de référence unanime, on reste en controverse. Alors même ça, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est clair? Sauf chez les gens, chez les Talmidei Chachamim de vérité, quand ils voient le texte écrit, ils tombent d'accord. Okay? D'ailleurs, ils n'ont jamais été en désaccord. Quand on étudie, il faudra qu'on fasse un jour cette expérience. Peut-être ce séminaire, rappelez-le-moi, lundi, mardi, ou peut-être avant, on va dans une souliade Gemara, une souliade c'est un sujet de Gemara, à propos d'un verset, Rabbi Untel dit comme ça, Rabbi Untel dit comme ça, Rabbi Untel dit comme ça, c'est pas qu'ils ont une connaissance différente du verset, ils ont la même connaissance du verset, et le fait est, étant donné ce que dit le verset, il est commun à tous, comment on va s'en servir pour telle situation de l'histoire? Alors lundi, eh bien voilà mon diagnostic de l'histoire, alors c'est comme ça. L'autre dit, voilà mon diagnostic de l'histoire, c'est comme ça. Mais il n'y a jamais aucune controverse sur ce qu'a dit la Torah de Moïse. Vous avez compris? À quel point on est tombé bas. Et rappelez-moi si vous voulez qu'on fasse cet exercice, peut-être vendredi si on est avancé dans notre sujet, ou jeudi si vous voulez, rappelez-moi Baba Batra, page 10. Il y a un exemple succulent. Éblouissant d'illustration. Okay. Alors, je reviens donc à cette différente expression, En Mouktam Unchar Batorah. Alors, dans le Sefer Torah, il y a un avant et un après, et la question de Rashi est que l'ordre logique du commencement du texte doit être l'ordre chronologique de la révélation de la Torah. C'est clair jusque-là? J'aurais une petite parenthèse pour détendre le sujet, et après je donne la parole. Je l'ai cité dernièrement, il y a un enseignement du Gaon de Vilna sur un passage du Zohar qui pose le même problème. Le Zohar dit « Akol talui v'amazal, afilu sefer Torah shebe'echal ». Ça veut dire « Tout dépend du déterminisme, même le sefer Torah qu'il y a dans le Echal, dans le sanctuaire ». Les Grecs traduisent mazal par la chance. Okay. Mazal, ça veut dire le déterminisme. Sachez bien cela. Okay. Oui, le conditionnement qui nous vient du cosmos s'appelle le mazal. Et alors, chez les Grecs, cette notion, ils appelaient ça la moira, la fatalité qui nous vient des étoiles, c'est la chance. Ça a passé. Quand, par exemple, dans le folklore juif, on dit En mazal les Israël. Ça ne veut pas dire qu'Israël n'a pas de chance. Ça veut dire qu'Israël n'est pas soumis aux lois qui déterminent le fonctionnement des sociétés.